Cruel FM.
Avec Aurélie et Mathéo, évidemment.
Salut.
Salut encore de nouveau, c'est nous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'apport de l'archéologie funéraire et de l'anthropologie au charnier de la Première Guerre mondiale. Ces études, elles sont relativement récentes. En fait, elles commencent réellement que depuis, on va dire, une petite quinzaine d'années. La Grande Guerre, on ne va pas forcément refaire un topo dessus. Je pense que vous savez ce que c'est. Hein. C'est un conflit armé de position qui dure de 1914 à 1918 et qui est donc mondial. La première découverte qui va permettre de lancer cette archéologie funéraire, ça va être celle de la tombe de l'écrivain Alain Fournier, qui s'est enrôlé dans ce conflit et qui a été abattu avec ses collègues de régiment. Et en fait, ce sont des amateurs qui sont fous de son roman, donc qui est Le Grand Maulne. Ils vont essayer de déduire, son endroit de, enfin, où est-ce qu'il aurait pu être inhumé. Et donc, ils trouvent sa sépulture à Saint-Rémy-la-Calonne. Il y a 20 soldats qui sont présents dans cette sépulture qu'on appelle multiple, parce qu'en fait, contrairement à une sépulture collective qui, elle, se réalise au fil du temps, une sépulture multiple, c'est quand plusieurs individus meurent et sont déposés en même temps dans une sépulture. Et donc, après avoir bien identifié que c'était Alain Fournier et avec ces fouilles-là, elles ont vraiment permis d'ouvrir donc, cette discipline. On sait par exemple après qu'en 1997, c'est donc la date du premier colloque sur la question des apports de l'archéologie à la Grande Guerre. En 2007, va y avoir un autre colloque sur l'existence d'une archéologie spécifique à l'étude de la Grande Guerre. Et en 2010, on va avoir le premier colloque sur l'apport de l'archéologie à l'alimentation des combattants. Donc on voit qu'au fil du temps, ces colloques deviennent de plus en plus précis pour partir d'une archéologie générale à une archéologie spécialisée, comme on peut avoir dans les autres disciplines. Le premier essai de fouille, ça va être le site d'Ensheim-Gesch-Polsheim. Alors, je le prononce très mal parce que je ne suis pas du Bas-Rhin. c'est les fouilles d'un système de retranchement allemand des années 14-16. Et en fait, ça va être un réel bac à sable pour pouvoir, sans évidemment faire de mauvais jeu de mots, pour pouvoir permettre de fouiller. En fait, tout le mobilier, par exemple, présent sur ce site va être prélevé et on va l'étudier après. Énormément du bâti va être récupéré en topographie pour pouvoir après l'étudier. En fait, c'est des fouilles qui vont permettre vraiment de comprendre un peu comment on pourrait fouiller. Et donc l'exemple de fouille qui démarre vraiment tout ça, qui permet vraiment de comprendre, c'est la fouille d'Aspach-Karspach. C'est pareil, je ne sais pas le dire, mais voilà, j'essaye.
T'en sors
hein.
Très bien, Mathéo, t'en fais pas.
Et donc c'est le premier site où il y a les premières implications de partenaires, donc par exemple le SRA Alsace, les pôles d'archéologie du Rhénan, le conseil général du Haut-Rhin. Et donc cette fouille est encore plus impressionnante par rapport à celle que j'ai citée précédemment. Parce qu'en fait, c'est celle où on va retrouver une vaste galerie en bois qui s'appelle le Kilian Stollen, donc Aurélie va vous parler tout à l'heure, qui est en fait une galerie où on a retrouvé énormément à la fois de matériel et à la fois de personnes, de sépultures, enfin du moins d'inhumation. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi. Et c'est aussi les premières fouilles où il y a une prescription de fouilles de la DRAC, donc ça permet vraiment de faire entrer cette discipline dans l'archéologie d'aujourd'hui, et c'est là aussi où les premiers archéologues vont se spécifier qu'à cette archéologie-là, parce qu'auparavant, par exemple, c'était des archéologues, je sais pas moi, de proto-histoire qui vont fouiller ça, parce qu'eux, ils veulent atteindre les niveaux proto-historiques, et du coup, ils passent par ces conflits-là. Donc je vais laisser un petit peu Aurélie vous parler plutôt du côté anthropologie biologique.
Pour ça, je vais vous parler en fait de trois sites. Donc le site du Kilian Stollen dont a parlé Mathéo. C'est une fouille préventive de 2011. Donc comme a dit Mathéo, c'est une galerie de position allemande qui a été bombardée par les Français le 18 mars 1918 exactement. Et donc suite à l'effondrement de la galerie, il y a 21 individus qui ont été retrouvés, du coup morts à l'intérieur. pour vous présenter ce que je vais vous présenter, je me suis aussi appuyée sur le site de Boulle-sur-Suippes dans la Marne, qui est une fouille de 2015 par l'INRAP. Et donc là, c'est un cimetière provisoire allemand, donc, qui date de 1914 à 1918. Et donc, sont enterrés là les soldats allemands avant de rejoindre un cimetière militaire à la fin de la guerre. Et ensuite, il y a une dernière sépulture. Donc là, c'est un seul individu qui a été retrouvé dans la Marne. Et c'est un cadavre qui est dans un trou d'obus. Donc là, c'est pareil, ça pose la question de savoir s'il a été enterré là volontairement ou si c'est une levée de terre qui a fait qu'il s'est retrouvé là-dedans. Donc, en fait, l'archéologie, l'anthropologie plutôt, de la Première Guerre mondiale, ça permet d'avoir plusieurs informations sur les soldats. Donc, on va pouvoir connaître leur âge au décès, la cause de leur décès, les blessures qu'ils ont eues, s'ils avaient des pathologies. On peut connaître éventuellement leur identité et aussi leur régime alimentaire, leurs conditions de vie, etc. Donc sur les sites que j'ai pu étudier, globalement, les soldats ont entre 15 et 59 ans. Ça reste assez large, mais c'est quand même la fourchette là où on retrouve le plus de morts, c'est entre 15 et 25 ans. Et donc, on voit notamment sur le site du Killian Stollen qu'on a des individus très jeunes, donc là on a un individu de 15 ans, un individu de 16 ans. Et donc ça prouve qu'au fait, à la fin de la guerre, on commence à avoir des soldats de plus en plus jeunes pour éviter d'avoir juste des réservistes qui ont plus de la trentaine pour se battre, c'est pas forcément terrible. Donc on a aussi des études sur la stature, sauf que par exemple pour le site du Killian Stollen, on a perdu toutes les informations d'enregistrement des soldats, donc la visite médicale qu'ils font avant d'être engagés, etc. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas faire de rapprochement entre l'identité du soldat et la taille, comme ça peut être le cas pour Alain Fournier, par exemple. Donc, on retrouve pas mal de pathologies. Donc, on a des pathologies dentaires. Donc, on va pouvoir tout ce qui est tartre, caries, les soins qui sont apportés. Pareil pour les fractures et les entorses. Sauf que c'est assez difficile, en fait, de savoir si c'est des pathologies qui datent d'avant la guerre ou d'après la guerre. On voit aussi pas mal de traces d'abcès. Et ça, ce serait plutôt un manque d'hygiène dentaire au cours de la guerre, ce qu'on peut visualiser en fait dans les tranchées. Et après, on a donc pas mal de blessures de guerre, donc notamment de l'arthrose, des tendinites, des entorses, etc., qu'on voit qui sont en fait pas soignées, et donc qui traduisent une forte sollicitation du corps au cours de la guerre. On a même sur un des individus du Killian Stollen, en fait, à force de porter des bottes trop serrées, il a ses phalanges de pied qui se fusionnent. En fait, il n'y a plus d'écart entre les pieds à force de porter des chaussures serrées. Ça arrive à modifier ses os. Je vais y arriver. Hein. Donc, ça traduit aussi sur les conditions d'hygiène. Donc, on peut voir que l'hygiène dans les tranchées, même s'il y a un effort de la part des armées qui sollicite à se laver les dents, etc. Parce que le fait d'avoir juste un peu mal aux dents, en fait, ça peut vous empêcher d'aller au combat. Et donc, ce n'est pas avantageux pour les armées, forcément. Et donc, on peut voir, par exemple, qu'ils consomment beaucoup de tabac. Et on a retrouvé surtout des pathologies infectieuses dues à des parasites intestinaux. Alors, je vous passe les détails parce que c'est l'heure de manger et c'est un petit peu ragoûtant. mais globalement, ça provoque des troubles pulmonaires, digestifs, des diarrhées, des vomissements. Et en fait, c'est dû à l'insalubrité des tranchées. Et donc, notamment, beaucoup de parasites qu'ils ont retrouvés dus à l'infection à l'ingestion, pardon, de matières fécales animales. En l'occurrence, plutôt du rat. Donc voilà. Et après, donc on retrouve avec ces morts, on retrouve leur équipement, notamment au Killian Stollen, parce qu'ils sont enterrés directement. Donc ils sont enterrés habillés avec leur équipement militaire, mais aussi leur équipement personnel. Personnel, ça peut être par exemple s'ils ont une pipe, une bible, des éléments de couture, on retrouve tout ça. Donc ça aide aussi à comprendre la vie dans les tranchées. Et par exemple, donc au Killian Stollen, on pourrait se dire, comme ils sont enterrés tous ensemble, on va pouvoir retrouver les plaques pour identifier les soldats. Sauf que encore une fois, il y a du mouvement quand les gens sont enterrés. Donc toutes les plaques sont mélangées. Donc là, ça permet pas en fait de savoir qui est le soldat qu'on va déterrer. Contrairement par exemple là, dans les cimetières où les plaques vont être mises avec, ou dans la tombe d'Alain Fournier où vraiment les soldats sont tous alignés avec leur équipement à eux. Donc voilà, c'est des fouilles qui sont à la fois intéressantes parce que ça permet de comprendre toutes les conditions de vie. Et après, pour avoir travaillé sur ça pendant ma semaine de vacances à la Toussaint, c'est un peu c'est particulier. Parce que quand on travaille sur des morts un peu plus anciens, on a plus de détachement. Là, c'était il y a moins d'un siècle. Et bon, c'est une ambiance, on va dire. C'est très particulier, mais c'est très intéressant. Donc maintenant, je vais vous laisser, Mathéo, pour le fun fact qui est un peu plus marrant que tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent.
C'est ça. Alors, le fun fact qui n'a rien à voir, évidemment, c'est un peu l'objectif des fun facts. Donc, on sait par exemple qu'à l'époque romaine, donc, particulièrement à Pompéi, enfin du moins ça a été retrouvé vachement là-bas, l'importance du sexe masculin. Alors comment je mets ça en forme sans que ça soit trop drôle, évidemment. Par exemple, il y a des fresques qui représentent le dieu qui s'appelle Priape. Alors c'est une sorte d'Hercule mais avec un sexe gigantesque. En fait, il est davantage, manifesté ici pour une sorte de protection, parce qu'en fait c'est par rapport à la virilité, par rapport à la fertilité. En fait, il y a rien de sexuel. Enfin, du moins, si on s'approche pas trop des cabanes des prostituées dans Pompéi. En effet, ça reste symbolique et protectionnel, on va dire. On sait aussi qu'il y a des porte-clés ou alors des cloches pour entrer dans les maisons, qui sont en fait des petits pénis, en fait, avec des petites ailes. Jusque-là, c'est vrai que ça paraît plutôt drôle, mais en fait, même aujourd'hui, on peut retrouver ce genre de porte-clés. Par exemple, je sais que quand je suis allé en vacances en Espagne, je sais qu'ils aiment bien vendre ce genre de choses. Aurélie me disait tout à l'heure que du coup, par exemple en Grèce, c'était relativement connu aussi. Je sais qu'en Italie, c'est pareil. Donc bon, c'est un signe qui reste relativement fort. Et justement, par rapport à l'archéologie, en fait, il y a quelques temps, sur un site de Cordoue qui s'appelle El Higueron, alors je ne sais pas parler, mon accent n'est pas très gracieux, mais du moins voilà, ils ont retrouvé le plus grand pénis taillé dans du marbre, du moins pour cette période. Alors il me semble que c'était antique, et en fait il fait 45 cm de long, donc pour la base, et les testicules font 10 cm sur 10 cm. Donc alors c'est vrai que vous pouvez aller voir sur internet, voilà. Alors j'ai trouvé ça sur TikTok, c'est une source, ma foi, un peu bof pour de l'archéologie, mais je me suis renseigné derrière.
Alors attends, il faut taper quoi pour trouver ça, parce que
alors
là,
je pense que si on tape genre je sais pas moi
Phallus Cordoue,
oui c'est ça, voilà, je pense que c'est pas mal, parce que j'avais fait des recherches et j'avais marqué Phallus Espagne. Bon, je vous avoue que je suis tombé sur quelques autres choses. L'archéologie n'y est pour rien, à moins que vous ayez un fétiche pour Indiana Jones nu, mais là non, c'était pas trop le cas. Donc voilà, c'est tout pour le fun fact aujourd'hui, mais il me semble qu'Aurélie a quelques petites infos à vous donner encore.
Oui, alors c'est par rapport à du coup l'association d'archéologie de la fac. Donc ce soir, on organise une soirée jeu de société avec l'association La Guilde du Délibéré, qui est de Bordeaux, par contre. Pas tout le monde ne vient pas d'ici. Et mercredi soir, on organise une soirée au Barracuda. Donc c'est un bar ambiance pirate, romerie, ouais, à la Victoire.
C'est ça.
Donc voilà, et c'était les petites infos de l'asso.
Par rapport à la soirée de société, donc c'est de 18h à 21h à la maison des étudiants. Voilà, tout le monde peut venir. En fait, on s'est juste calé sur un créneau à eux et on s'est associé pour que nos adhérents et tout le monde, du coup, puissent venir aussi. En soi, c'est totalement libre, hein, tout le monde aurait pu venir. Mais là, c'est juste pour un peu marquer le coup. Donc, voilà.
Faire des jeux autour de l'archéologie,
voilà,
plus vaste de
parce
l'histoire.
Mais c'est ça, on a fait une petite sélection. Alors forcément, ça va rester relativement sommaire. Hein. On va pas commencer à faire des jeux sur la stratigraphie. Je pense pas que ce soit hyper drôle, ni sur les statistiques, ni sur quoi que ce soit d'autre. Mais ça sera très sympa. Et pour le Barracuda, n'hésitez pas à y aller. C'est à la Victoire. C'est un bar hyper sympa. Comme l'a dit, c'est une romerie, c'est ça,
ouais,
si je dis pas de bêtises. Donc déjà, ça sent hyper bon et l'ambiance est super cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir.
Et le rhum est super bon.
Et le rhum est super bon. C'est vrai que bon, pour une romerie.
C'est à quelle heure?
C'est
à partir de 18h ou 19h, je sais plus.
Alors, on a notre président aussi qui est présent dans les locaux. Il va nous donner cette information. Il me semble que c'est de 19h à 2h du matin. Voilà, 19h à 2h du matin, donc n'hésitez pas, on y sera, et ça nous permet de décompresser un petit peu des cours, parce qu'on a eu énormément de choses à faire, et là...
Ça justifie pas,
hein. Non, à peine. Mais voilà, donc n'hésitez pas, ça va être super cool.
Merci beaucoup Aurélie et Mathéo,
à
très vite alors.
Bah oui, à la semaine prochaine.
Allez, c'est parti.